Merci d'écouter RFI, il est 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité française.
Charlotte de Rouen.
Les dirigeants européens ont acté ce jeudi un plan pour renforcer la défense du vieux continent. Hier, dans son discours, Emmanuel Macron a insisté sur la menace que représente la Russie. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir à Moscou. On y revient très largement dès le début de cette édition. Au procès de Joël Le Skouarnec, les victimes racontent leur traumatisme. Beaucoup d'entre elles n'ont aucun souvenir des viols et agressions sexuelles dont elles ont été victimes, étant inconscients ou en phase de réveil au moment des faits. À Lille, le temps est venu de passer la main. Martine Aubry a annoncé sa démission de la mairie. Elle passe le relais à son premier adjoint, mais pas question pour elle de prendre sa retraite. Elle entend bien peser au niveau national au Parti Socialiste. Et puis à suivre également dans la prochaine demi-heure, reportage à la Fashion Week.
24 heures en France.
Le président français Emmanuel Macron a toujours poussé pour une défense européenne. À peine élu, en septembre 2017, il plaidait déjà pour une Europe de la défense face à la menace russe et à la guerre en Ukraine. Les dirigeants européens ont validé ce jeudi un plan pour renforcer les capacités de défense du vieux continent. Et alors que les États-Unis se désengagent de l'aide militaire et du renseignement qu'ils apportaient jusqu'ici à Kiev, la France, elle, est en mesure de poursuivre son soutien en matière d'espionnage. C'est ce qui a affirmé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, au micro de nos confrères de France Inter.
Nous, notre renseignement est souverain. Ça a été plus long de remonter en puissance ces dernières années, mais l'avantage, c'est que nous l'avons fait effectivement avec des capacités qui nous sont propres. Donc oui, on a des moyens de renseignement. Nous faisons bénéficier les Ukrainiens. Non, je crois que sur la menace russe, de fait, on n'a jamais varié. C'est sûr qu'on a un système politique et parfois médiatique qui n'a pas envie de le voir. Bon, moi je suis ministre des Armées, vous n'avez pas un agent de la DGSE, vous n'avez pas un officier d'état-major actuellement en France qui considère que la Russie n'est pas une menace. Donc après, je sais pas en quelle langue il faut le dire, peut-être à certains en russe, mais la réalité, c'est que oui, un pays qui s'est habitué à sa survie politique par de l'agressivité extérieure et dont désormais l'économie repose en grande partie justement sur un effort de guerre et qui désormais engagé dans des coopérations des plus dangereuses avec Téhéran d'une part et la Corée du Nord d'autre part, sans oublier les transferts de technologies éventuels, sans oublier les programmes d'armement que même la guerre froide avait permis de réguler, typiquement l'envoi d'armes nucléaires dans l'espace. Il n'y a pas grand-chose à attendre de positif de ce côté-là.
Sébastien Lecornu sur France Inter. La fusée européenne Ariane 6 a placé en orbite un satellite militaire d'observation pour le compte de la France. En Europe, seule la France et l'Italie disposent de satellites militaires alors que les États-Unis en comptent des centaines. Ce lancement, ce jeudi, revêt donc un caractère fortement symbolique. Cette mission scelle la souveraineté retrouvée de l'Europe dans un contexte de rapprochement entre les États-Unis et la Russie. En Russie, justement, le discours d'Emmanuel Macron hier mercredi a suscité de vives réactions. Le président français a notamment annoncé son intention d'ouvrir le débat stratégique sur la protection de l'Europe par la dissuasion nucléaire française. À peine prononcé, son discours était partout sur les réseaux sociaux en Russie et le pouvoir russe, Anissa El-Jabri, tire dessus à boulets rouges.
Le chef de la diplomatie russe nomme le chef de l'État français Monsieur Macron. Le porte-parole du Kremlin le cite comme Monsieur le Président. Dans les deux cas en Russie, cela signe une forte mise à distance et cela implique une menace ou du mépris. Les paroles, elles, sont à l'avenant.
Contrairement à ses prédécesseurs qui voulaient aussi lutter contre la Russie, Napoléon ou Hitler, Monsieur Macron n'agit pas très gracieusement.
Ça, c'est le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui a répondu aussi à l'argument du chef de l'État français sur l'agressivité russe pour juger que c'est au contraire Paris qui menacerait Moscou.
Bien sûr que c'est une menace pour la Russie. Ils nous considèrent comme une menace parce qu'ils convoquent une réunion des chefs d'état-major des pays européens et de la Grande-Bretagne. Il dit qu'il faut se préparer à utiliser les armes nucléaires contre la Russie. Alors, bien sûr que c'est une menace.
Quant au porte-parole du Kremlin, il rejette, lui, encore plus vigoureusement que d'habitude les propositions françaises de peser sur les conditions d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine.
Nous avons lu les propos du président français selon lesquels il entend déployer un contingent en Ukraine après le cessez-le-feu.
La Russie peut-elle accepter cela? La réponse est absolument évidente.
Dmitri Peskov, qui ce matin encore avait des mots très aimables pour la diplomatie américaine et son chef Marco Rubio, qui a dit « considérer que le conflit en Ukraine était une guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis, nous sommes entièrement d'accord », a dit le porte-parole du Kremlin. Agnès El-Jabri, Moscou, RFI.
Et dans ce contexte très tendu, le débat sur le gel des avoirs russes est relancé, gelé depuis 3 ans en Europe. Il représente plus de 350 milliards d'euros et pourrait servir à armer l'Ukraine. En France, en tout cas, la classe politique est partagée sur le sujet, Charlotte Urien-Tomaka.
L'idée divise mais prend chaque jour de l'ampleur. Si le gouvernement de François Bayrou est opposé à l'idée d'utiliser les avoirs russes, les députés du socle commun, eux, sont pour. Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République.
Ce ne sont pas aux Français de payer, ce ne sont pas aux Ukrainiens de payer, ce ne sont pas aux Européens de payer. La charge de cette guerre doit être portée uniquement par l'agresseur qui est Vladimir Poutine et donc au travers des avoirs russes.
Le PS et Europe Écologie Les Verts y sont également favorables. Léa Balagel-Mariki, députée ELV, propose d'ailleurs une résolution en ce sens.
Non seulement j'y suis favorable, mais j'ai aussi proposé à l'ensemble des députés de porter une proposition de résolution pour demander au gouvernement d'être aussi allant sur cette question. C'est une question de justice sociale.
Seul à soutenir le gouvernement, ses adversaires les plus déterminés, LFI et le RN. Pour Gaëtan Dussausset, député Rassemblement National, c'est contraire au droit international.
Ça pourrait créer un précédent qui pourrait poser ensuite énormément de problèmes et dans la quête de futurs investisseurs étrangers et aussi dans les prochains conflits militaires si malheureusement il y en a d'autres qui arrivent à l'avenir.
Exactement la même crainte qu'exprime le gouvernement Bayrou. Les positions devraient se clarifier encore le 12 mars, date de la discussion à l'Assemblée d'une proposition de résolution du groupe Liotte demandant la saisie par l'UE des avoirs russes.
Charlotte Urien-Tomaka du service politique de RFI.
24 heures en France.
Au procès de Joël Le Skouarnec, la parole aux victimes. L'ex-chirurgien est jugé pour quelque 300 agressions sexuelles et viols sur ses anciens patients, âgés en moyenne de 11 ans à l'époque des faits, et souvent inconscients ou en phase de réveil. Comme la plupart des parties civiles, Sabine, 43 ans, n'avait aucun souvenir de son viol que l'accusé a reconnu. Ce jeudi, à l'audience, Laura Martel, ce sont les gendarmes qui lui ont appris les faits dont elle a été victime.
Le 24 avril 91 est bien gravé dans la mémoire de Sabine. Elle a 9 ans et en faisant la course avec son frère, elle chute lourdement de vélo. De son hospitalisation, en revanche, elle ne se rappelle rien, comme elle n'a d'ailleurs presque aucun souvenir de son enfance. Pourquoi ? Durant 30 ans, elle a relié ça à l'accident, mais la question l'a hantée jusqu'à cette convocation en 2018 et l'annonce de son viol. « Je me suis immédiatement sentie sale, ça m'a dégoûtée, j'avais envie de partir en courant », raconte difficilement la quadragénaire. « Je me suis dit, c'est pas possible, j'aurais forcément dû m'en souvenir ». Pourriez-vous préférer ne pas savoir ? Demande la présidente. Mon mari m'a posé la question. Moi, je savais bien qu'il y avait une part d'ombre dans cette perte de mémoire. Mais encore maintenant, je ne comprends pas que je ne m'en souvienne pas. Est-ce qu'il m'a endormi ou mon cerveau me protégeait ? Je devrais faire l'effort de consulter, mais c'est si dur. Souffle celle qui peine à confier ses souffrances, mais évoque colère, trahison, relations intimes difficiles. Prostrée à la barre, Sabine endure le terrible récit de son viol décrit par l'accusé dans ses carnets. Mais c'est sans ciller qu'elle le fixe, tandis que lui, fuyant son regard, présente ses excuse voix tremblante pour la désolation qu'il a causée. Sabine le toise une dernière fois, puis part sans un mot. Je ne crois pas que la guérison qu'il allègue soit possible, avait-elle souligné plus tôt.
Laura Martel et Joël Le Skouarnec a reconnu pour la première fois avoir violé 3 victimes ce jeudi. Toujours dans l'actualité judiciaire, la fille de Gisèle Pélicaud annonce avoir porté plainte contre son père. Dominique Pélicaud a été condamné en décembre à 20 ans de prison pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme par des dizaines d'inconnus. Il a été aussi condamné pour la diffusion de photos de sa fille, Caroline Darian, des images d'elle dénudée, prises à son insu. Mais son père assure n'avoir jamais eu de gestes incestueux envers elle. Caroline Darian, elle, dit avoir la certitude d'avoir été aussi victime de son père après avoir vu ses clichés d'elle, inconsciente, allongée sur un lit, dans des sous-vêtements qu'elle n'a pas reconnus. RFI 23h09 à Lille.
C'est vrai que le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération. C'est pas mon départ qui m'émeut, je suis très sereine là-dessus parce que c'est une décision mûrie, comme vous l'avez compris, depuis longtemps. Voilà. C'est simplement l'affection que je porte à ceux qui m'entourent aujourd'hui.
Après 24 années passées dans le fauteuil de maire de Lille, Martine Aubry a donc annoncé ce jeudi céder son siège à un an des élections municipales. À 74 ans, la succession de l'ancienne ministre et patronne du Parti Socialiste s'annonce d'ores et déjà mouvementée, Aurélien de Vernois.
La dame de fer du Nord a pour une fois eu du mal à cacher son émotion. Au moment d'annoncer sa démission de son poste de maire, la voix de Martine Aubry s'est étranglée avant de vite se reprendre pour annoncer qu'elle souhaitait voir son premier adjoint, Arnaud Deslandes, prendre sa succession. 11 mois pour convaincre avant les municipales, un défi pour ce socialiste méconnu, d'autant que dans les rangs même du PS local, un rival s'est d'ores et déjà déclaré, Roger Vicot, député de Lille. Il faudra donc sans doute passer par une primaire avant que le gagnant ne se mesure à ses futurs adversaires écologistes soumis et peut-être une alliance entre la droite et le camp présidentiel. Le défi est de taille. L'incontournable Martine Aubry n'avait gagné que d'un souffle en 2020 face aux écologistes. L'ancienne ministre du Travail compte-t-elle prendre du champ, se consacrer à sa famille? Mais attention, pas question de parler de retraite. Martine Aubry entend bien continuer de peser à Lille, mais aussi au niveau national alors que le congrès du PS aura lieu en juin prochain. Il faut repenser notre projet de société et prendre ses distances avec les insoumis, professe Martine Aubry, qui rappelle que c'est quand elle était à la tête du Parti Socialiste que celui-ci a connu sa dernière grande victoire. L'élection de François Hollande en 2012.
Aurélien Devernois. Le code civil personnel de Napoléon, vendu 395 000 euros aux enchères. Cet exemplaire était resté au sein d'une même famille depuis la chute de l'Empire. Lorsqu'il prend le pouvoir en 1799 en France, Napoléon avait fait de l'élaboration d'un code civil unique l'une de ses priorités. Un mot de football, les Lions qui prend une bonne direction, une bonne option à Bucarest en s'imposant 3-1 en match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Après l'ouverture du score, les joueurs lyonnais sont venus entourer leur entraîneur Paulo Fonseca sur le banc avant qu'il ne commence à purger sa suspension jusqu'au 30 novembre. La mesure n'a d'effet que pour les compétitions françaises. Suspension, on le rappelle, pour avoir menacé tête contre tête l'arbitre du match OL-Brest. C'était en Ligue 1. RFI 23h et 12 minutes à Paris.
RFI Soir. Charlotte de Rouen.
Et avec notre invité culture direction Mayotte à présent, le photographe Franck Thoms est allé à la rencontre de la population. Réplique, Mayotte en République, c'est le titre de l'ouvrage qui regroupe ces clichés. Il tente de comprendre la complexité du 101e département français, le plus pauvre de notre pays. Muriel Mahalouf l'a rencontré.
Franck Thoms, quelle a été votre impression en débarquant à Mayotte, puisque vous ne connaissiez pas, donc vous êtes allé avec l'idée de photographier cette île. Quelle a été votre première impression?
Ma première impression, c'est que je pense arriver dans un département français. En fait, j'arrive en Afrique. C'est le seul département français où les gens sont d'origine africaine et d'obédience, grande majoritairement musulmane, puisque c'est 95% de la population à peu près. Vous avez eu un foisonnement aussi avec beaucoup d'enfants partout et on n'est pas sans savoir qu'en métropole, ben, les enfants, on les cache. Là-bas, on les cache pas, ils sont partout. Et d'ailleurs, les enfants, enfin les moins de 18 ans, représentent à peu près 50% de la population. Donc vous avez une jeunesse qui est présente et qu'on voit partout.
Une jeunesse et des gens que vous photographiez. Comment vous avez été accueillis?
C'est très difficile de parler de l'accueil d'Amzungu. C'est comme ça qu'on est nommé là-bas quand on est blanc et qu'on vient de la métropole. Parce que finalement, il y a un rapport qui est biaisé dans les rapports humains là-bas. Vous avez quand même une population noire pauvre, parce que même les Maorés, qui sont français, sont finalement assez peu argentés. Et vous avez après une grande partie de la population qui est étrangère, à peu près la moitié.
D'ailleurs, vous le soulignez dans votre livre, dans le texte qui accompagne les photos, c'est le département français le plus pauvre, avec un revenu médian de 262 euros. C'est la débrouille pour survivre.
Les Comoriens sont des gens qui sont extrêmement débrouillards. Ce sont des gens qui ne se laissent pas avoir par leurs conditions, qui cherchent toujours des solutions.
Vous parlez aussi de la solidarité.
La solidarité, mais bien sûr. Alors nous, en métropole, la solidarité, elle est nationale et en fait, elle est institutionnelle et on a l'habitude de la concevoir comme ça. Mais là-bas, la solidarité, elle est beaucoup liée aux conditions de vie et à l'extrême pauvreté. Donc si vous n'êtes pas solidaire avec vos voisins, s'il n'y a pas d'empathie et en fait un système de vie qui est organisé autour de la solidarité, ben vous ne pouvez pas y arriver.
Alors, dans vos images, la nature et le milieu urbain sont souvent réunis. C'est un reflet de la réalité dans cette île.
Mayotte est sur un territoire tropical. Donc vous avez l'omniprésence de la nature, c'est magnifique, c'est luxuriant. En même temps, c'est très dominé, hein, parce que par exemple, vous avez des reliques de forêts primaires, mais vous n'avez plus de forêts primaires. Après, il faut quand même rappeler que Mayotte, c'est un tout petit territoire de l'ordre d'une superficie de l'île de Ré. C'est vraiment un confetti, en fait, au milieu du canal du Mozambique. Et donc, malgré tout, c'est un milieu tropical. Vous avez une nature généreuse, vous avez des primates, notamment, il y a une seule espèce de primates, sont les maquis. Vous avez aussi des très grandes chauves-souris qu'on appelle les roussettes, qui font jusqu'à 1,20 m d'envergure, qui sortent une heure avant le coucher du soleil. Et là, c'est très impressionnant, c'est très beau. Et vous avez ces maquis qui viennent en ville chercher des fruits sur les arbres que les Maorais font pousser dans leur jardin pour pouvoir s'alimenter.
Franck Tompes, à l'issue de ce projet, qu'est-ce qui vous reste de votre séjour à Mayotte?
Je garde une ouverture d'esprit. Je vois aussi à regret que finalement cette diversité, la mosaïque que représente aussi un tel département dans le paysage français, on en parle comme des problèmes en continu alors qu'on a quand même une vraie diversité culturelle là-bas dont on ne sait pas s'enrichir en métropole.
Merci Franck Tompes. Donc Réplique, Mayotte en République, c'est votre ouvrage de photos paru aux éditions Locaux.
Et merci à vous Muriel Malouf du service culture.
Reportage France.
C'est l'événement à ne pas manquer pour tous les professionnels et les amoureux de la mode. La Fashion Week bat son plein à Paris. Plus de 70 défilés au programme, mais aussi plus d'une trentaine de prestations pour que les créateurs du monde entier dévoilent leur collection automne-hiver 2025-2026. Et aux côtés des grandes maisons, il y a aussi des marques plus confidentielles qui présentent leur travail. C'est le cas de Nicolas Besson. Il a ouvert les portes de son showroom à Lucie Bouteloup, à la veille du défilé. Reportage.
Il est 19h. Dans la pièce centrale de l'appartement haussmannien qui sert de showroom à Nicolas Besson, les mannequins se succèdent pour les essayages. Autour du styliste, son équipe s'active pour les derniers réglages. Et d'après le couturier, il y a encore pas mal de travail.
On a encore des looks attribués. Il y a des pièces qui ne sont pas terminées. Donc on va devoir les terminer le jour même. Ça va être quelque chose. Moi, j'ai encore plein de pièces à terminer en retouche. Des pièces aussi à faire. En fait, on a des changements en fonction des mannequins. On est obligé de changer même, de switcher les looks, d'interchanger des hauts, des tops, etc. Donc on est soit obligé d'en refaire, soit d'en retrouver pour pouvoir caler sur les mannequins.
Au total, 40 looks composent la collection du designer. Avec des pièces fortes dont la conception a commencé dès le mois de septembre, comme cette veste blanche à épaulettes et entièrement perlée.
Ça, il n'y a plus de 3 mètres de travail dessus sur celle-ci. C'est que des franges de perles qui ont été assemblées les unes après les autres et ensuite après réincrustées dans une broderie esprit perlé, en plus en relief. C'est structuré après avec du crin, c'est énormément de travail, énormément.
Tu peux te déshabiller, on essaye ça.
Les affaires, je les mets où exactement?
Mathieu, un jeune mannequin à la peau noire et à la silhouette élancée, commence sa séance d'essayage avec Marco, le styliste qui épaule Nicolas Besson.
Là, le stress commence un peu. Hein. Sur l'homme, on n'a pas encore bien défini qui va porter quoi. Donc, on va voir par rapport à les couleurs et à les coupes, qu'est-ce que ça va être mieux sur lui. Donc, on a cette veste drapée devant. Donc, présent ça va pas. Soumis.
Pendant ce temps-là, dans un autre coin de la pièce, Alexis, ordinateur posé sur les genoux et téléphone vissé à l'oreille, tente de régler les derniers problèmes. Debout depuis 4 heures du matin, il a dû faire un aller-retour Paris-Reims dans la journée pour aller chercher des housses pour les bancs sur lesquels vont s'asseoir les 230 invités. Le ventre vide, mais le sourire aux lèvres, il tente de terminer le placement autour du podium.
On attend pas mal de personnalités et c'est aussi un vrai casse-tête de pouvoir placer les gens influents en avant, d'autres personnes qui sont également influentes mais qu'on ne peut pas mettre en avant, placer des personnes encore plus au-dessus, sans froisser les gens, il y a des gens qui ne doivent pas être à côté, c'est une organisation.
Retour aux essayages. Après plusieurs tentatives, Mathieu, le mannequin, n'a toujours pas sa tenue. Le designer et le styliste tentent une nouvelle option, une veste en python et en résille.
Nicolas !
Ouais, moi je valide, c'est bon. Allez, go, photo !
Reste encore 6 silhouettes à trouver avant le matin. Pas de doute, la nuit promet d'être encore courte pour le designer et toute son équipe.
Un reportage signé Lucie Bouteloup, RFI, 23h19 à Paris, 9h19 à Nouméa.
Le journal des Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, tous les groupes politiques de la Nouvelle-Calédonie seront autour de la table pour le deuxième round de négociations qui débutera dans 15 jours. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. Deuxième round, en présence une nouvelle fois du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, attendu à Nouméa le 21 mars prochain. Tous présents donc, avec tout de même, et on s'y attendait, des appréciations divergentes sur le document de synthèse présenté par le ministre à la suite du premier round de discussion. Nadine Goapana.
Dans un communiqué diffusé hier soir, le FLNKS annonce poursuivre les discussions sur l'avenir institutionnel. La convention de ce mardi, je cite, a confirmé le mandat de discussion de la délégation politique. Cependant, il conditionne l'ouverture de ces négociations à plusieurs exigences, à savoir la présence du président du FLNKS, Christian Théin, actuellement en détention provisoire à Mulhouse, avec un appel à l'apaisement dans le traitement judiciaire des 6 autres militants politiques incarcérés ou assignés à résidence dans l'Hexagone. Autre condition, la supervision de l'ONU. Et puis enfin, le Front demande également la sécurisation de l'avancée des discussions, s'inquiétant de l'instabilité politique et des risques de censure du gouvernement. Le FLNKS, tout comme les partisans du maintien de la Calédonie dans la France, tous deux ont pris leur distance avec le document de synthèse élaboré par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Pour le Front, le document n'engage que l'État. Du côté du Rassemblement et de l'intergroupe Les Loyalistes au Congrès, en conférence de presse hier, ce document, je cite, n'est pas le nôtre, il reflète la vision du ministre et ne nous engage pas. Les Loyalistes et le Rassemblement rappelle trois éléments qui leur sont fondamentaux. La définition d'un statut définitif qui tienne compte du résultat des 3 référendums, l'égalité de tous les citoyens calédoniens et enfin la stabilité économique et institutionnelle pour assurer la reconstruction de l'archipel.
Direction la mer des Caraïbes, la fermeture prolongée de la carrière de Déhé met-elle en péril tout le secteur du BTP en Guadeloupe? C'est ce qu'affirme le patronat local, qui est d'ailleurs intervenu en ce sens auprès du préfet. Mais sur le terrain, la réalité semble un peu plus nuancée. Eric Stimpfling.
Le message est largement contredit par les faits. Si le marché des travaux publics est actuellement considéré comme peu dynamique par les professionnels de la filière que nous avons consultés, il continue en revanche de fonctionner, notamment pour ce qui est du béton. Béton pour lequel les entreprises du BTP peuvent notamment s'approvisionner en sable et en gravier auprès de la carrière de Rivière-Sens à Gourbert. La difficulté intervient pour les enrouber. En Guadeloupe, seule la carrière de Déhé est en mesure de fournir le gravier demandé, un gravier plus dur, issu d'une roche volcanique, l'andésite. Pour autant, on trouve de l'andésite également en Martinique et en Dominique, deux îles dotées de carrières qui exportent traditionnellement une partie de leur production vers la Guadeloupe. Mais là encore, le trafic maritime est plutôt stable depuis l'arrêt de la carrière de Déhé, le 15 janvier dernier, en moyenne, une barge par semaine, selon les données du grand port maritime de la Guadeloupe. Les solutions alternatives existent donc, mais elles ont un prix, un surcoût d'environ 15%, un surcoût que certaines entreprises de travaux publics n'ont visiblement pas envie ou n'ont pas les moyens de payer.
Saint-Pierre-et-Miquelon, pour terminer, un moratoire canadien sur le hareng inquiète les pêcheurs de l'archipel car le hareng leur sert principalement d'appât, là-bas on appelle ça la bouette, et il ne sera pas du tout évident de remplacer le hareng par autre chose, comme l'explique Guy Clairaut de l'IFREMER. Il est au micro de Claudio Arthur.
À partir du moment où le hareng devient rare, ça veut dire que la bouette pour les pêcheurs de l'archipel va devenir rare et va devenir chère. C'est une proportion dans le budget d'une marée qui est importante. Une marée au homard aujourd'hui, le coût de la bouette, c'est 10% de ce que le pêcheur va gagner sur sa marée. Donc si le hareng se renchérit, devient plus cher et plus rare, donc plus cher, bien évidemment la proportion dans le budget va augmenter. Et puis si on est obligé de passer à d'autres types de boîtes. Mais alors le prix risque d'augmenter encore plus. Des boîtes possibles aujourd'hui pour les pêcheurs de l'archipel, s'il n'y a plus de harengs, ça va être l'encordé ou le bulot même, mais alors ça devient très cher. On va être impacté, d'une manière ou d'une autre, on est impacté. Donc il va falloir réfléchir peut-être même à fabriquer sa propre boîte. Métropole, on appelle ça de la boîte artificielle, mais c'est recycler finalement les produits de la transformation du poisson pour en faire une boîte qui fonctionne. C'est pas encore finalisé tout ça, mais dans beaucoup d'endroits, c'est un sujet d'étude.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand et bonne soirée à vous également.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Caroline Paré et toute l'équipe de Priorité Santé est en Casamance au programme La vaccination contre le papillomavirus.
Priorité Santé vous retrouve pour notre deuxième émission au Sénégal en Casamance pour parler santé et vaccination en milieu scolaire. Nous allons échanger avec des élèves, des soignants, des enseignants impliqués dans une campagne de prévention. Objectif, lutter contre le papillomavirus, responsable notamment du cancer du col de l'utérus, première cause de mortalité par cancer ici au Sénégal chez la femme. Séance de sensibilisation et de vaccination à l'école Marie-Affine Kodiata de Ziguinchor. L'occasion de répondre aux questions des adolescentes et des jeunes garçons sur leur santé. Donner la parole à celles et ceux qui les encadrent et qui luttent à leur niveau aussi contre les rumeurs et la désinformation. Docteur Abdoulaye Barry, gynécologue obstétricien, chef du service de la maternité du centre de santé de Ziguinchor.
Parler du cancer du col de l'utérus est important aujourd'hui parce que c'est un problème de santé publique qui est majeur. Le human papillomavirus est un virus qui est sexuellement transmissible et c'est le virus le plus répandu parmi les virus sexuellement transmissibles. Et ce n'est pas le fait qu'on est en contact avec le human papillomavirus qu'on va forcément développer le cancer du col de l'utérus. Et c'est ça l'avantage de la vaccination, parce qu'il faut savoir qu'entre la femme et le cancer du col de l'utérus, c'est une très longue histoire qui peut durer plus de 10 ans. L'infection peut disparaître spontanément. Cependant, il y a des situations dans lesquelles il y a une persistance de l'infection à human papillomavirus. Et c'est dans ces conditions que la femme peut développer ce qu'on appelle des lésions précancéreuses.
Nos invités échangent avec des élèves pour parler donc de cette campagne de vaccination en milieu scolaire dans Priorité Santé. Émission à Ziguinchor à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel avec Ophélie Lassène et Victor Hull. Émission à retrouver aussi à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et pour rester connecté à tout moment avec l'actualité, rendez-vous aussi sur RFI.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci à Fabrice Violet qui m'a accompagné ce soir à la réalisation et à Loïc Bussière à la rédaction en chef. Dans quelques instants, place à Afrique Soir avec Arthur Ponchelet. Mais d'abord, on fait un point sur la bourse à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones replonge, abandonne 428 points et revient à 42 579. Le Nasdaq dégringole de 483 points, clôturant à 18 069. Le secteur des semi-conducteurs souffre particulièrement avec des dégagements frappant Nvidia qui perd quelques 6%, Marvell Technology, Broadcom ou encore Taiwan Semiconductor. Les actionnaires de Marvell Technology s'attendaient à l'annonce d'une demande plus forte pour les puces conçues pour des applications d'intelligence artificielle. Au sein du Dow Jones, les rares hausses concernent des valeurs très défensives, c'est-à-dire les actions de sociétés relativement moins affectées dans les périodes de contraction de la demande. L'opérateur de télécommunications Verizon ou encore le géant de la restauration rapide McDonald's. Le chaud et le froid soufflé par la Maison-Blanche dans ses droits de douane imposés un jour, suspendus le lendemain, contribue à la forte chute des actions aujourd'hui en annonçant que les biens venus du Mexique et du Canada, couverts par l'accord de libre-échange nord-américain, ne seraient finalement pas surtaxés. Donald Trump ne rassure pas vraiment Wall Street car le président s'empresse d'ajouter que cette suspension de sanctions n'est valable que jusqu'au 2 avril. Le marché obligataire n'en profite pas. Le rendement du T-bond à 10 ans remonte à 4,29. L'euro se stabilise à 1,0788. Stabilité aussi du baril de pétrole américain au-dessus de 66 $. Le Dow Jones plonge d'1%, le Nasdaq dégringole de 2,6%.
Merci Pierre-Yves Dugas.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent.
Pour lutter contre le changement climatique et décarboner nos économies, une nouvelle ruée minière d'une ampleur inédite a commencé. Pourtant, cette industrie consomme beaucoup d'eau, d'énergie et pollue les sols. C'est un paradoxe, mais pour produire des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries, il faut extraire du cuivre, du cobalt, du nickel, du lithium et des terres rares.
C'est pas du vent. Avec Anne-Cécile Bras.
Tout à l'heure, à partir de 23h10 TU.
RFI. Témoin d'actu. Le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
Jeunes journalistes, Pauline et Théo ont fait le pari de l'étranger. Madagascar pour l'une, le Kurdistan irakien pour l'autre. Deux terrains, deux expériences et une même passion, informée. Pourquoi ce choix ? Témoin d'actu vous emmène dans les coulisses de leur quotidien de correspondant.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h40 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr.